un message d'encouragement pour nous, aussi pour Daniel, qui va nous quitter à la fin du mois, pour que nous puissions toujours garder les yeux sur le Seigneur et sur ce qu'il nous demande en tant que chrétiens. Et c'est étonnant parce que ce matin, le verset que Cathy a lu, elle ne le savait pas, c'est le verset sur lequel je vais prêcher. Donc c'est Romains 6, comme quoi le Saint-Esprit conduit toutes choses. Romains 6, verset 29. Il est déjà lu, mais je crois que je vais le relire. Donc nous savons du reste, verset 28 d'abord, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Romains 8, hein, Romains 8, 28. Hein. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon sa volonté. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà, le Seigneur a conduit ce matin, Cathy, à nous conduire dans le thème de la gloire. La gloire, c'est le poids. Le poids que nous pouvons ressentir quand Dieu se manifeste. C'est pas simplement une personne comme d'entre nous, mais il possède un poids. Et vous le sentez un petit peu quand parfois certaines personnes sont une grande influence, vous sentez un poids dans une rencontre. Mais là, le poids de Dieu, je peux vous dire qu'il est tellement fort, comme le disait Laurence, que quand vous expérimentez la présence de Dieu, il est tellement fort que vous ne pouvez pas vivre. Vous êtes obligé de demander que ce poids s'arrête, parce qu'il vous écrase. Et donc nous voulons que la gloire, ce poids, sa présence de Dieu puisse se manifester dans chacune de nos vies d'abord, dans nos couples, dans nos familles, dans l'Église et dans notre nation et sur la terre. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il nous faut être transformés pour supporter ce poids, voyez-vous. Avec notre corps naturel, nous ne pourrons pas supporter la présence de Dieu dans l'éternité. Et nous avons besoin d'une vie, d'une transformation de notre être. Et c'est pour ça que Dieu veut nous transformer pour pouvoir supporter sa présence. Mais c'est une présence bienfaisante, c'est pas une présence qui écrase pour détruire, c'est une présence simplement parce que Dieu est saint et que à cause de sa sainteté, eh bien cette gloire est tellement manifeste. Et je voudrais juste nous dire que notre vie est comme un voyage. Et dans un voyage, eh bien, il faut prendre la bonne direction, surtout quand on est dans un milieu un peu hostile. Et je voudrais dessiner un petit peu notre voyage, un peu comme si c'était une route. Et parfois, c'est ce qui se passe quand vous ne connaissez pas, que ce soit dans une route ou dans une forêt. Eh bien, parfois, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui va à droite, et un chemin qui va à gauche. Et la question, c'est quel chemin prendre? Quelle direction prendre? Eh bien, la parole de Dieu nous indique dans ce verset quelle est la direction qu'il faut prendre. Il est dit que celui, nous savons, voilà, toute chose coopère au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Daniel, toute chose coopère au bien pour toi. Toute chose coopère au bien pour moi. Dites-le, toute chose coopère au bien pour moi. Vous savez, coopérer, ça veut dire mettre toutes choses ensemble. Toutes les énergies, toutes les choses qui sont autour de nous, Dieu les met ensemble pour notre bien. C'est pour ça que nous chantons Dieu est bon pour notre bien. Et pour ceux qui sont appelés, donc il y a d'abord l'appel. Pour nous, en tant que chrétiens, nous considérons que le départ de notre vie, c'est l'appel. Nous sommes appelés par Dieu. Regardez Abraham. Abraham était un homme comme un autre dans son temps, et Dieu l'a appelé. Nous avons une grâce particulière d'avoir été appelés. Tu as été appelé ce matin, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as entendu l'appel? Si tu ne l'as pas entendu ce matin, eh bien, écoute le Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Et si tu n'as jamais été appelé, le Seigneur t'appelle ce matin. L'appel, c'est parce qu'il y a une personne qui est derrière, hein, une personne qui peut nous parler. Hein. Et c'est pour ça que nous considérons que, en tant que chrétiens, c'est une relation et non pas une religion. Une religion, il n'y a pas d'appel. Une religion, il y a des choses qu'on nous apprend, qu'on fait parce qu'on nous a demandé de le faire d'une certaine manière, avec des rites, avec des habitudes, avec une liturgie. Une personne peut appeler, elle parle. Et Dieu parle. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la nature, que ce soit par sa parole, que ce soit par son esprit. Et nous entendons son appel. Donc l'appel est à la base du départ de notre chemin. Et ensuite, après, il y a où le chemin qui mène vers le royaume de Dieu, ou un autre chemin qui mène vers le royaume de ce monde. Hein? Jésus l'a dit. À chaque fois qu'il rentrait en contact avec quelqu'un, que ce soit toutes les personnes qu'il a rencontrées sur la terre, il a dit, voilà, il y a deux chemins, un chemin qui va vers le royaume de Dieu et un chemin qui va vers le royaume du monde. Il y a un choix à faire. Et si on prend le chemin pour le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il va nous conduire ? Quelle est la fin de ce chemin ? Si toutefois on peut mettre une fin. Eh bien, la fin, c'est la vie éternelle. Vous voulez la vie éternelle ? Vous voulez que la vie s'arrête ? Et vous, pour nous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est un peu comme une déchirure. Hein. Et dans notre vie sur la Terre, il y a souvent des arrêts, il y a des chemins qui s'arrêtent. Il y a nos parents qui s'en vont avant nous, il y a des séparations, comme là avec Daniel, il y a des choses qui s'arrêtent. Mais avec Dieu, il n'y a plus d'arrêt. La vie est éternelle. Et si nous avons envie de vivre à la vie éternelle, il faut prendre le chemin du royaume de Dieu. Ça, c'est une vie éphémère, une vie qui s'arrêtera. Le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais la parole ne s'arrêtera pas. Et donc, nous avons là le chemin qui dit, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Dieu vous a destiné ici, hein, il vous a destiné, prédestiné, comme il est dit là, prédestiné à être quoi ? Quelle est notre prédestination ? Quelle est notre prédestination ? D'après ce verset qu'on vient de lire, le verset clé, Romains 8, 29. Il nous a prédestiné à quoi ? À quoi tu es prédestiné, Laurence ? À quoi ? Ah oui, pas à une statue, hein. Pas à Marie, pas à... voilà. À être semblable, tu le redis très fort. Encore une fois. Semblable à l'image de Christ. Voilà. Être semblable à l'image de Christ. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on a perdu. On a perdu le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous avait créés pour ça. Hein? Mais ici, il y avait le péché qui a conduit l'homme à faire l'autre choix. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Hein. Aujourd'hui, les hommes ont toujours un choix. Bien sûr, nous avons un héritage un peu lourd, hein, l'héritage de pécheur, parce que Adam a fait ce choix-là. Et nous faisons naturellement ce choix. Mais Dieu a prévu un autre choix. Il veut nous rendre conformes à l'image de Christ. Il y en a qui veulent ressembler à Christ. Voilà. Eh bien, si votre désir est dans votre cœur, ça veut dire que Dieu a déjà placé en vous cette prédestination et il va vous donner les moyens de l'accomplir. Voyez-vous ? C'est ça qui est merveilleux. C'est que Dieu met en nous un désir et il nous donne la capacité de l'accomplir. C'est formidable. Dans le monde, on vous donne des enjeux. On vous donne des... Samuel vient d'avoir un contrat de travail là, en Australie. Eh bien, il a des enjeux. Et s'il ne les tient pas, eh bien, voilà, il y a une évaluation à la fin. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a aucune évaluation. C'est par grâce. Amen. Il n'y a pas d'évaluation avec le Seigneur. Le Seigneur t'a appelé, il t'a prédestiné. C'est fantastique. Il t'a mis dans un train qui va vers la vie éternelle. Il t'a mis dans un train qui t'amène à ressembler à Christ. Voyez-vous, nous pouvons admirer Christ, mais le Seigneur veut que Christ soit formé en nous, que nous soyons comme lui, que nous ayons le même amour, que nous ayons la même persévérance, que nous ayons la même capacité d'endurer les épreuves, que nous ayons la même souci des autres, et tout ce que Jésus a représenté, sa sagesse et tout ça nous est donné. Ça, c'est le but de tout chrétien, le but de notre vie. Paul disait, mon but c'est de le connaître et de courir vers ce but, de connaître Christ et d'être connu par lui. Et l'autre destination, c'est le royaume de ce monde. C'est d'être à l'image. L'image de quoi? Bah, c'est d'être à l'image d'Adam, hein, qui est pécheur. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième Adam. Voyez-vous? Dieu a reconstruit un nouvel Adam qui, lui, puisse être à l'image de ce que le Père avait prévu pour l'humanité. Alors, je vais vous inviter à lire Romains 6. Donc, à tourner vos pages un petit peu avant, dans Romains 6, verset 22, où nous avons un peu un complément à ce voyage, hein, ce voyage qui nous est proposé dans la parole. Et Romains 6, 22 dit la chose suivante. Maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alors, voyez, si nous prenons le chemin que le Seigneur a prévu pour nous, ce chemin-là, d'accord, il mène à la vie éternelle. Et quel est le fruit que nous portons? Quel est le fruit que nous portons? Allô? Vous savez lire le verset qu'on vient de lire là? Qu'est-ce qui est marqué? Oui, je ne demande pas la devinette, hein. Je vous demande simplement de dire ce que dit la parole. Hein. Nous sommes là pour être à l'écoute de la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Pardon? Le fruit, hein, j'entends différentes choses parce qu'il y a des versions différentes, c'est ça? La sainteté? Pardon? Moi j'ai sanctification, je ne sais pas si vous l'avez, vous. Hein, donc il y a un fruit. Alors je dessine toujours un raisin, mais parce que c'est facile à illustrer, mais il y a d'autres fruits. Hein. La pomme et tout ça, mais voilà. Donc le fruit de la sanctification qui vient du mot sainteté. Sanctification, c'est un concept de fruit qui bien sûr comprend la sainteté, mais qui comprend aussi le fait que c'est une attitude de cœur qui nous amène à rechercher toujours ce qui est séparé du monde. Donc vous voyez, le fruit, ça nous empêche d'aller dans ce sens-là. Si nous portons ce fruit-là, nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là. Parce que Dieu nous aide, voyez-vous. Parce que si nous portons ce fruit-là, et le problème, c'est que c'est le problème de la conscience. Est-ce que vous êtes toujours conscient de ce que vous faites? Levez la main si vous êtes toujours conscient de ce que vous faites. Vous êtes toujours conscient? Non? Donc vous êtes parfois inconscient. Oui. Ben oui, c'est vrai. On fait parfois des choses par inconscience, mais le problème, c'est que si on les fait, si on pose un acte, il faut répondre de ces actes. Donc il y a une justice aussi. Et parfois, ben, il faut payer le prix de la justice. Eh bien, ici, Dieu nous donne le fruit, hein, il nous place en nous le fruit de la sanctification. Donc il nous aide à produire ce fruit-là et à empêcher, hein, chaque fois, lorsque nous produisons ce fruit, empêcher de prendre ce don. Alors donc, vous voyez, Dieu veut que nous marchions dans ce sens-là. Et il y a un auteur, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le lire, c'est Bunyan, qui a écrit un livre, Le Voyage du Pèlerin. Voyage du Pèlerin. Il y en a qui connaissent Le Voyage du Pèlerin? Ben, ceux qui ne le connaissent pas, on a même une cassette vidéo ici, qui illustre ce voyage, lisez-le. C'est ça. Il illustre simplement comment est-ce qu'on voyage dans notre vie chrétienne, et comment on peut produire ce fruit-là, et comment on peut entrer dans la prédestination qui nous amène à être à l'image de Christ. Voyez-vous, Dieu nous aide, il nous aide à avoir un test. On fait beaucoup de tests. Eh bien, Dieu nous donne un test pour nous aider à savoir si nous sommes sur le bon chemin, pour nous faire prendre conscience si nous sommes sur ce chemin-là ou l'autre chemin. C'est quoi ce test? Quel est le test? Vous faites des tests, hein? Toute la vie, vous êtes testé, hein? Surtout à l'école, on vous demande des tests, voilà. Les épreuves de la vie, c'est des tests, oui. Quel est le test qui vous permet de dire 20 sur 20? Voilà. De savoir votre note. C'est bien quand même de savoir sa note, non? Si on ne sait pas sa note, on ne sait pas si on passe ou si on ne passe pas. Et qu'est-ce qui nous permet de connaître le résultat de notre test? Oui, les fruits. C'est ça, le test. Hein. Le test, c'est les fruits. Hein. Jésus a dit qu'il fallait toujours garder aux fruits. Vous voyez, Arnaud, il n'a pas dit la parole. Hein. Parce qu'on pourrait dire, bah oui, moi je peux dire, j'ai passé le test. Ok, c'est ma parole. Moi je dis, j'ai passé le test. Ok, j'ai passé le test, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Notre parole, très souvent, elle est mensongère parce qu'il y a une part d'inconscience dans notre façon d'agir. Mais le fruit, c'est quelque chose qui est vérifié par les autres. On est toujours vérifié par les autres. Allô? Vous me suivez? Le fruit. Jésus a dit, particulier pour les prophéties, regardez-les, regardez-leur, ben dites-le, regardez-leur. Voilà, il faut que ça rentre, hein, la parole. Les fruits. Regardez les fruits. Jésus a dit à ses disciples, regardez les fruits. Et pour nous, parce que sur ce chemin-là, c'est pas les mêmes fruits que sur ce chemin-là, vous voyez. Ici, il y a d'autres fruits. Vous connaissez Galates 5:22, hein? Il y a d'un côté les fruits du monde, les fruits de la chair, et de l'autre côté les fruits de l'esprit. Hein? Alors, si tu n'as pas encore la patience infinie, c'est que tu n'es pas apôtre, parce qu'un apôtre a une patience infinie. Si tu n'as pas encore la patience suffisante, eh bien, tu produis encore des fruits de la chair. Si tu n'as pas encore la joie infinie, il y a quelqu'un qui a la joie infinie, hein, la joie, parce que dans le ciel, on aura la joie infinie. Amen. Parce que Jésus, C.S. Lewis, c'est celui qui a écrit Narnia, qui est mis en film, il a écrit tout un livre qui s'appelle Surprised by Joy. C'est-à-dire, il explique que le ciel est fabriqué de joie. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans le ciel, il n'y a que de la joie. Il n'y a plus de peine, il n'y a plus de séparation, c'est la vie éternelle, vous voyez. Donc, la joie, c'est le matériau de base du ciel. Donc, si vous n'avez pas la joie infinie, ça veut dire que vous n'avez pas encore ce fruit-là, et que le Seigneur veut le faire porter en vous, cette joie. La patience, la joie, tous ces fruits de l'esprit. Alors, on va voir certains fruits. Par exemple, dans Jean 15, en dehors de Galates, que vous pourrez lire, hein, Jean 15, on connaît moins ces fruits-là. Jean 15, et c'est ce que je souhaite à Daniel aussi, qu'il puisse continuer à porter ses fruits là-bas, dans son pays. Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, voyez-vous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Il y en a qui veulent que tout ce qu'ils demandent à Dieu, il vous le donne. Hein? Dieu est un Père extraordinaire. Il a tout à disposition. Hein? Vous n'avez pas besoin d'aller voir des banquiers avec tout un tas de dossiers. Dieu, il a tout l'argent qu'il vous faut dans le ciel, il peut vous le donner. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit après tout ça? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, ce que je vous commande, c'est quoi? De vous aimer. Ah mince, c'est pas question d'argent, il n'est pas question de promotion, il n'est pas... Waouh! Vous voyez, il y a toujours un contre-pied. Hein. On est toujours pris en contre-pied, hein, comme au tennis, là. Ça fait mal, hein, quand t'es en contre-pied. Hein. Mais le Seigneur nous prend toujours en contre-pied. Parce que nous, on pense avoir compris quelque chose, et puis, ah, il dit, c'est l'autre côté. Voyez. Nous, on pense argent, lui dit, mais aimez-vous les uns les autres. Waouh, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que Dieu est amour. La nature de Dieu, l'attribut principal de Dieu, c'est l'amour. L'amour, pas simplement l'amour filéo, l'amour amitié, mais l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour don. Dieu donne avec bonté, avec libéralité, avec largesse. Amen. Et nous pouvons et nous devons aussi porter ce fruit, donner. Et là, nous pouvons faire des tests. Nous pouvons dire, est-ce que j'ai donné? Est-ce que le fond de mon cœur, c'est prendre ou est-ce que c'est donner? Et ça, c'est un test objectif. Vous pouvez vérifier. Non pas pour vous culpabiliser, mais pour vous dire, « Seigneur, j'ai encore besoin de plus de ton amour pour continuer à donner encore plus. » Et plus vous donnez, plus vous... C'est ça la loi du royaume. Voyez-vous, nous, c'est plus on garde, plus on est riche. Bien, dans le royaume de Dieu, c'est plus on donne, plus on reçoit. Et oui, contre-pied. Dieu nous prend un contre-pied. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas compter sur notre propre force pour y arriver, sur notre propre sagesse. Nous ne pouvons que compter par la foi sur Dieu qui donne gratuitement, librement. Amen. Voyez-vous, on est à l'opposé des principes du royaume. Et c'est pour ça que c'est si difficile dans notre vie. Et c'est pour ça que les épreuves, on a du mal à les passer avec succès, parce qu'on a toujours tendance à toujours faire des réflexes qui nous sont propres et qui sont contre-productifs. La production, c'est de produire du fruit. Et nous, on produit des fruits, mais de la chair. Et donc après, on est déçu et il faut recommencer. Mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le fruit de la sanctification, c'est un fruit qui porte par la marche dans la sanctification, par la marche quotidienne que nous devons avoir. À la gloire et à la louange de Dieu. Là, il y a le fruit de la justice. Nous devons porter du fruit de justice. Pas simplement du fruit de l'amour, la joie, la paix, etc. Du fruit de l'amour, mais le fruit de la justice. Parce que l'amour et la justice sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Dieu est amour et Dieu est justice. Et c'est à cause de la justice de Dieu que Jésus a dû mourir. La justice, c'est de dire la vérité, d'être la vérité. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut dire « Je suis la vérité » hein? Les Quakers, c'était des évangéliques au XVIIIe siècle qui sont allés aux États-Unis. On savait qu'ils étaient, leurs paroles étaient tellement justes, tellement vraies, qu'on leur demandait pas de jurer sur la Bible. On savait qu'ils étaient comme la Bible. C'est formidable ce témoignage. Les Quakers. Et donc, dans les justices et cours légales, on leur demandait de s'abstenir de ça, parce qu'ils n'avaient pas besoin. On savait qu'ils disaient la vérité. Formidable ça, quand vous avez un témoignage comme ça. On peut dire ça de nous. C'est à ça que nous devons tendre, chacun d'entre nous. Et particulièrement les hommes. Particulièrement les hommes. Pourquoi ? Parce que les hommes ont une capacité que les femmes n'ont pas. C'est le masculin, féminin. C'est que les hommes ont la capacité d'analyser. Beaucoup plus. Parce que ils ont... Le cerveau est le même, entre hommes et femmes, mais le branchement entre les deux n'est pas le même. La femme a beaucoup plus de branchements entre les deux. Vous saviez ça ? La masse cérébrale est beaucoup plus importante. Ce qui fait qu'elle passe de l'un à l'autre sans arrêt du cerveau. Et donc elle est beaucoup plus influencée par l'émotion que par l'analyse. L'analyse permet de se détacher des choses, de prendre du recul. Hein. Pour ça, parfois, on dit qu'il y a des hommes qui planent. Hein. Il y a des planants. Parce que c'est très loin de la réalité. On se rend compte que voilà, ils peuvent raisonner sur des choses. Et les hommes, ils aiment beaucoup raisonner. Hein. Moi, je sais que quand j'étais 16, 17 ans, 18 ans, enfin dans ces périodes-là, je passais des heures avec mes copains, des heures et des heures. Ma mère, il disait, mais qu'est-ce que t'as fait encore ? Le repas est brûlé, on t'attendait, tout ça. On passait des heures et des heures à discuter sur le monde, sur la façon dont on va changer les choses, sur la façon dont on va changer notre ville qui était mal administrée, etc. On avait déjà des idées politiques, hein, des idées de changement des choses. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le masculin. Enfin, l'homme, c'est le masculin. Les femmes aussi ont le masculin, heureusement. Ils ont aussi du masculin en eux. Mais il y a une façon de se détacher et de ne plus être en contact avec le réel. Et ça, c'est assez grave, parce que c'est pour ça que l'homme a besoin de la femme, besoin de vis-à-vis, hein, besoin des féminins, pour le ramener sur terre, en disant « Ah, la vaisselle n'est pas faite, tu me donnes un coup de main ? Les patates sont épluchées, tu me donnes un coup de main ? Ah non, je suis dans mes grandes idées philosophiques, je suis en train... » Ouais, bah, c'est bien, mais il faut peut-être redescendre un peu, vous voyez. C'est un peu cette notion hein, d'être un équilibre entre les deux. Je dis ça par rapport à ce verset qui nous ramène à ce fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. La justice, c'est que Dieu a dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance. » Dieu, c'est l'autorité suprême. Ok ? Il a dit quelque chose. L'homme a fait autre chose. La justice, c'est que la parole, c'est la parole. Dieu ne peut pas rétracter sa parole. Il a dit « Vous mourrez. » Vous voyez ? Et c'est ça le problème, c'est que Dieu est juste. Donc, oui, on dit, ah, oh, mais si Dieu était bon, il n'aurait pas fait. Mais non, il n'aurait pas été juste. Vous voyez, il aurait peut-être été amour, pas justice. L'amour et la justice vont de pair. Amen. Il n'y a aucun être humain sur terre, et en particulier les Français, qui voudrait que la vie éternelle soit faite d'injustice. Vous aimez l'injustice ? Vous aimez que les politiques font n'importe quoi, qu'ils mentent, ben, c'est pour votre bien qu'ils mentent, hein, vous voyez. Mais voilà, mais tout le monde est déçu des politiques. Parce que plus personne ne croit à rien de ce qu'ils disent. Parce qu'on sait que le mensonge fait partie du jeu. Mais vous voulez un monde comme ça ? Vivre dans l'éternité dans un monde comme ça ? Non. Mais c'est grâce à la justice de Dieu qu'on pourra vivre dans un monde où ce qui est dit est fait. Où il n'y a pas quelque chose qui est annoncé et autre chose qui est fait. C'est ça la justice. Et tout le monde veut ça. Le problème, c'est que personne ne veut payer le prix de la justice. Parce que le prix de la justice, c'est la cohérence, c'est l'intégrité. Et ça, un homme doit plus particulièrement qu'une femme le montrer. Et c'est pour ça que l'homme est testé aussi. Il y a des femmes, par exemple, quand on les prépare au mariage, en disant « Ah ben, j'ai peur, hein. J'ai peur parce que ben, mon mari, il risque de partir avec d'autres femmes. » Ben voilà. Alors, si vous commencez le mariage comme ça avec une peur, ben je peux vous dire, l'angoisse, la frustration, ben, bonjour les dégâts. Ben voilà, c'est comme ça. Mais parce qu'on prend pour habitude ce que les hommes ont tendance à faire. Mais avec Jésus-Christ, avec Dieu, il nous donne la capacité de tenir la parole. Quand tu es passé devant le maire et que tu as dit oui, est-ce que ton oui, il tient ? s'y tient, ta femme peut dormir tranquille, sans problème. Voyez-vous ? Mais il faut que l'homme apprenne l'intégrité, la vérité, dire et être la vérité. Et Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Amen. Je suis. Et Dieu veut que nous soyons à l'image de son Fils. Voyez-vous ? Le but, c'est que nous puissions dire, je dis la vérité. Non pas je suis. Jésus en moi est la vérité. Mais je peux dire et être la vérité. Amen. Voilà le fruit de justice. Le fruit de l'amour, le fruit de la justice. Et bien sûr, tous les autres fruits. Je ne vais pas continuer mon message parce que je n'ai pas le temps. Mais simplement pour terminer, dans le psaume 1er, vous le connaissez, tout le psaume 1er, lisez le psaume 1er, Daniel en particulier, où ce psaume dit que eh bien, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Et vous avez cette même image dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, où il est parlé de cet arbre qui produit les 12 fruits dans l'année. 12, c'est toujours le chiffre complet, la complétude. Les 12 apôtres, les 12 tribus, c'est complet, c'est le chiffre de la complétude. Et cet arbre, c'est le fruit qui va apporter la guérison aux nations. Et dans Ésaïe, chapitre 32, verset 15, pour ceux qui veulent le lire, eh bien, il est dit que l'œuvre de la justice sera la paix, le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. Nous sommes dans un monde d'insécurité, dans un monde belliqueux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'amour. Mais dans le royaume de Dieu, il y aura la justice et l'amour, les deux en même temps, et ils sont incarnés en Jésus-Christ qui nous l'a déjà prouvé que c'est possible dans ce royaume éternel et que nous aussi, nous pourrons le produire parce que nous sommes appelés à être l'image de son Fils. Amen. Alors, ça s'appelle le fruit du caractère de Jésus. Et c'est ce que Florence, Samuel et ceux qui étaient à Siéphénaï ont appris en leur disant « character first ». Character first. La première des choses, c'est le caractère. C'est pas le ministère, c'est pas le service que vous allez accomplir, c'est le caractère. Est-ce que tu as le caractère de Christ ? Et c'est ce que le Seigneur veut produire en nous. Il veut placer en nous le caractère. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Le processus de sanctification, c'est de mettre en nous le caractère pour que nous puissions produire du fruit qui demeure. Amen. Un fruit qui demeure dans l'éternité, parce que l'éternité est fabriquée de toutes ces choses qui vont produire ces fruits en permanence, 12 mois de l'année, sans arrêt. Et c'est le message de l'Apocalypse qui nous a donné. Et c'est vers ça que nous voulons tendre. Amen. Alors, on va prier aussi tout à l'heure pour que Daniel puisse produire ce fruit là-bas. Hein ? Il n'y a pas que des mangues et des ananas, mais il y a aussi des fruits de l'esprit. Hein ? Et toi, tu es chargé. Je crois que c'est ton père qui a commencé le premier à évangéliser la Martinique et la Guadeloupe. Non, que la Guadeloupe. Qui a commencé à évangéliser là-bas, eh bien son fils va le rejoindre, va rejoindre le ministère de son père, non pas pour être un grand évangéliste, mais pour être un témoin de la grâce, de la puissance de Dieu et de porter des fruits qui demeurent. Amen. Prions un instant. Père, nous te prions afin que, Seigneur, ces fruits que tu veux que nous portions, nous puissions le faire, le porter avec ton aide, avec ta grâce. Et tu dis que si ces fruits sont en nous, nous ne serons ni oisifs ni stériles. L'oisiveté n'existe pas, la stérilité n'existe pas dans ton royaume. Tu nous fais porter du fruit, et un fruit, Seigneur, qui te glorifie. Seigneur, notre objectif, c'est de te glorifier, et nous ne pouvons te glorifier que par les fruits qui te sont agréables. Et nous te prions pour chacun de nous, et particulièrement pour Daniel, afin qu'il soit un porteur de ces fruits là-bas, afin que le témoignage de ta parole puisse être vraiment efficace et que tu sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.